Bonjour à tous, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Pont. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage de l'histoire de l'univers avec la planète Jupiter. Jupiter est une planète géante gazeuse. Elle se situe au-delà de la ceinture d'astéroïdes. C'est la plus grosse planète du système solaire, plus volumineuse et plus massive que toutes les autres planètes réunies. Jupiter est également la plus ancienne planète du système solaire. À partir du Soleil, Jupiter est la cinquième planète. Il lui faut 11,86 ans pour faire le tour de celui-ci. Alors, on va voir la création de Jupiter. Pour comprendre comment s'est formé Jupiter, il faut remonter à la création de notre étoile, le Soleil. On sait que le Soleil s'est formé à la suite de l'effondrement sur lui-même d'un nuage de gaz et de poussière. Enfin, il s'agissait que d'une partie de ce nuage. Une fois le Soleil formé, il restait un peu de matière disponible, un peu de poussière et beaucoup de gaz. Cette matière a formé un disque qui gravitait autour du Soleil naissant. Jupiter est donc né de poussière et de gaz il y a 4,5 milliards d'années. Elle a récupéré presque toute la masse laissée par le Soleil après la formation de celui-ci. Jupiter s'est formé dans la partie extérieure du disque, une zone où étaient concentrés un peu de métaux et un peu de roche, mais essentiellement du gaz. Les planètes géantes ont été formées en première, à l'extérieur du disque, puis les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, à l'intérieur de ce disque. Voyons maintenant la croissance. Jupiter a eu une croissance très rapide. Au cours du premier million d'années de notre système solaire, elle aurait atteint 20 masses terrestres. Ces 20 masses terrestres correspondent à la masse du noyau solide de Jupiter. Une fois que ce noyau s'est formé, la croissance de Jupiter a lentement continué par l'accumulation de gaz. À 4 millions d'années, Jupiter est entièrement formé. Elle atteint une masse de 50 masses terrestres. Jupiter était suffisamment grande pour démarrer une accrétion exponentielle, c'est-à-dire qu'elle a grossi très rapidement, faisant le ménage autour d'elle. Ça lui a permis d'atteindre sa masse finale de 380 masses terrestres très rapidement. Son immense gravité a façonné le destin de toutes les planètes du système solaire. Étant la première planète à s'être formée, la gravité de Jupiter a attiré et détruit les débris spatiaux qui auraient permis aux autres planètes de grossir. Peu après sa naissance, l'orbite de Jupiter s'est déplacée, la rapprochant toujours plus près du Soleil. Mais en se déplaçant, elle a créé le chaos, s'assurant qu'aucune autre planète ne puisse se former. La croissance rapide de Jupiter a conduit à une diffusion d'astéroïdes riches en eau dans le système solaire interne. Ses corps ont pu être incorporés à la Terre. Sa croissance a également inhibé le transport de masse dans le système solaire interne et elle a ainsi arrêté la croissance de Mars. Aujourd'hui, l'immense masse de Jupiter, 318 fois plus grosse que la Terre, continue d'influencer la galaxie et son pouvoir s'étend jusqu'à notre planète. On va voir l'atmosphère de Jupiter. Comme il s'agit d'une planète géante gazeuse, il n'y a pas de surface solide sur Jupiter. Tout comme le Soleil, Jupiter est composé surtout d'hydrogène et d'hélium. Ils sont à l'état gazeux en surface, puis liquides vers le centre de la planète. Dans son atmosphère, on trouve également des traces de méthane, de vapeur d'eau, d'ammoniac, d'éthane, de phosphine et de sulfure d'hydrogène. Jupiter possède plusieurs couches, on va les découvrir. En 1, la troposphère, où se trouvent les nuages. En 2, la stratosphère, où les hydrocarbures, comme le méthane, sont très abondants. En 3, la thermosphère, où il y a les aurores polaires. Et pour finir, l'exosphère, qui s'éloigne jusqu'à 5000 km d'altitude. Il faut savoir que dans la troposphère, il y a 3 couches de nuages, et ces nuages sont la cause de fortes turbulences, tempêtes, et ouragan. En 1, la couche la plus haute est faite de nuages d'ammoniac. Plus bas, il y a des nuages d'hydrosulfure, d'ammonium. Et encore plus bas, des nuages de vapeur d'eau et de cristaux de glace. On va voir maintenant les tempêtes. Comme sur les autres planètes gazeuses, les tempêtes de Jupiter sont très nombreuses et les vents violents y soufflent jusqu'à près de 600 km/h. Ils parcourent les couches supérieures de Jupiter. Le cyclone le plus célèbre, c'est celui de la Grande Tache Rouge que nous allons découvrir. La Grande Tache Rouge est un gigantesque anticyclone. Elle a été découverte en 1665 par l'astronome français Jean-Dominique Cassini. Cette Grande Tache Rouge est observée par les scientifiques depuis plus de 350 ans. Ce cyclone gigantesque existe encore de nos jours, bien qu'il rétrécisse actuellement. Autour de 1878, la couleur de la tache est visiblement rouge. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que le nom de grande tache rouge lui était assigné. Vers la fin du XXe siècle, sa couleur est passée du rouge à brun, puis, depuis 2014, à orange. Cette tempête est de forme ovale, mesurant environ 16 000 km de long, soit 1,3 fois la taille de la Terre. C'est la tempête la plus célèbre du système solaire. Elle se trouve dans l'hémisphère sud de la planète Jupiter. Elle tourne sur elle-même en 6 jours, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Depuis que les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2 l'ont survolée en 1979, la vitesse des vents entourant la tache a augmenté. Cette vitesse est d'environ 700 km/h, tandis qu'en 1979, elle était d'environ 400 km/h. La température moyenne de la grande tache rouge est de moins 160 degrés Celsius. Le centre de l'anticyclone, là où la couleur rouge est la plus prononcée, est plus chaud, de 2 à 3 degrés Celsius. Des tempêtes de ce genre ne sont pas inhabituelles dans l'atmosphère de Jupiter. Elle possède également des ovales blancs et bruns de plus petite taille. Pour les ovales blancs, ils sont plutôt constitués de nuages relativement froids à l'intérieur de la haute atmosphère. Pour les ovales bruns, ils sont plus chauds et situés à l'intérieur de la couche nuageuse habituelle. De telles tempêtes peuvent exister pendant des heures ou des siècles. Voyons maintenant les anneaux de Jupiter. C'est en 1979 que ces anneaux furent découverts lorsque la sonde Voyageur 1 s'approcha de la planète. En effet, Jupiter possède plusieurs anneaux planétaires. Ils sont très fins et à peine visibles, constitués de poussière en petite quantité. Il y a trois anneaux principaux. On va les découvrir de plus près ou plus loin du centre de la planète. En 1, on a le halo. Entre 92 000 et 122 500 km du centre de la planète, le halo est un anneau en forme de tore, c'est-à-dire un tube courbé refermé sur lui-même, qui est élargi par le champ magnétique de Jupiter. En 2, l'anneau principal, entre 122 500 et 128 940 km du centre de Jupiter, est épais de seulement 30 km. Il est probablement composé de poussière provenant des satellites Adrastée et Métis. Pour information, Adrastée et Métis sont des satellites naturels de Jupiter. Métis est le satellite naturel le plus proche de Jupiter et Adrastée le deuxième. Revenons aux anneaux. Les anneaux transparents. Ils sont entre 128 940 et 280 000 km du centre. Avant les 181 350 km, il est constitué de poussière provenant d'Amalthée, satellite naturel de Jupiter. Après, elle provient de Thébé, un autre satellite de Jupiter. Cet anneau est très peu dense, nettement plus épais que le précédent, et s'évanouit progressivement dans le milieu interplanétaire. Jupiter a aussi un quatrième anneau. Il a la particularité de tourner autour de Jupiter dans le sens inverse de sa rotation. Son origine est incertaine, mais pourrait provenir de poussière interplanétaire capturée. Nous allons voir les satellites naturels de Jupiter. Jupiter possède 79 satellites naturels confirmés, dont 50 nommés. En 1610, Galilée découvrit les 4 plus importants satellites de Jupiter. C'est pour cela qu'on les nomme les lunes galinéennes ou les satellites galiléens. On a Io, Europe, Ganymède et Callisto. Les autres lunes sont plus petites. Elles ne sont pas rondes, mais d'une forme irrégulière. Il s'agit probablement d'astéroïdes capturés par la force de gravitation de Jupiter. Pour en revenir à Galilée, c'est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle. Il a découvert les 4 satellites Galilée 1 avec une paire de jumelles ou un télescope. Voyons ensemble ces 4 satellites Galilée 1. On va commencer avec Io. Alors Io, c'est le 5e satellite en distance par rapport à Jupiter et le plus proche des satellites par rapport aux 4 satellites galiléens. Io fait le tour de Jupiter en à peu près 40 heures. C'est également le 4e plus grand satellite du système solaire. Légèrement plus grande que la Lune, Io possède de très nombreux volcans et des lacs de lave de soufre en fusion. Avec plus de 400 volcans en activité, Io est l'objet le plus actif du système solaire. Io est de couleur jaune avec des nuances de blanc et de rouge. C'est dû au soufre qui recouvre sa surface. Sa température peut atteindre sur certains points les plus chauds de Huio une température au maximum de 1726 degrés, mais en moyenne c'est nettement inférieur, avec moins 143 degrés. Le deuxième satellite, Europe. Niveau distance avec Jupiter, c'est le sixième et le deuxième des quatre satellites galiléens. Europe fait le tour de Jupiter en 3 jours, 13 heures et 14,6 minutes. C'est le quatrième plus gros satellite de Jupiter et le sixième du système solaire. Il est plus petit que la Lune. Europe est gelée. Il est recouvert d'une épaisse couche de glace qui cache probablement un immense océan souterrain très profond, environ 90 km de profondeur. Il y a aussi des geysers d'eau liquide qui ne sont pas actifs en permanence. Sa surface est couverte de failles et le relief est très faible. On y trouve très peu de cratères. Sa température est au maximum de moins 150 degrés. Ce satellite est de couleur crème brillant, parsemé de petites taches rouges et de lignes superficielles. En 3, on a Ganymède. Alors, c'est le septième satellite en distance avec Jupiter et le troisième des satellites galiléens. Il fait le tour de Jupiter en 7 jours et 3 heures. Ganymède tourne de façon synchrone et présente toujours la même face vers Jupiter. Il s'agit du plus grand satellite naturel du système solaire. Il fait le double de la Lune et il est même plus grand que Mercure, la plus petite des planètes. Ganymède semble avoir un passé beaucoup plus actif que ce qui naît aujourd'hui. Il y avait une importante activité tectonique et volcanique, un peu comme sur Io. Aujourd'hui, Ganymède est un astre froid dont l'activité s'est arrêtée. Il y fait environ moins 150 degrés en surface. Ganymède a la particularité d'engendrer un champ magnétique et d'être recouvert d'une fine atmosphère oxygénée. Il est formé en quantité à peu près égale de roches silicatées et de glace d'eau. Il est probable que Ganymède, tout comme Europe, abrite un océan souterrain très profond. Il pourrait même contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Pour sa surface, un tiers, ce sont des régions sombres criblées de cratères d'impact vieux de 4 milliards d'années, et les deux tiers restants, des régions plus claires et plus jeunes, parsemées de larges rainures. Et pour finir, le quatrième satellite galiléen, Callisto. Par rapport à Jupiter, c'est le huitième satellite. Et c'est le plus éloigné de tous les satellites galiléens. C'est également le seul à ne pas être en résonance orbitale. Callisto est la troisième plus grande lune dans le système solaire. Il lui faut 16,7 jours pour faire le tour de Jupiter. Son atmosphère est composée de dioxyde de carbone. Callisto est composé à part égale de roches et de glace. Il pourrait posséder un petit noyau composé de silicates, ainsi qu'un océan d'eau liquide à plus de 100 km sous la surface. La surface de Callisto est relativement sombre et ne reflète que 17% de la lumière du Soleil. Sa surface est criblée de cratères d'impact qui ressemblent à des taches blanches. C'est le corps céleste possédant la plus grande densité de cratères. Le relief sur Callisto est peu marqué, car la plupart des cratères ne dépassent pas les 150 km. La température sur Callisto ne dépasse pas les moins 155 degrés en surface. Pour terminer cette chronique sur Jupiter, je vous donne une petite information qui permettra d'en connaître plus sur cette planète et ses satellites, principalement les 4 lunes galiléennes. La sonde JUICE sera lancée par Ariane 5, ou la future Ariane 6, mi-mai 2022, depuis la Guyane française, pour aller étudier Jupiter. Elle voyagera pendant 7 ans et demi en bénéficiant des assistances gravitationnelles de la Terre, de Vénus et de Mars avant d'atteindre le système jovien. Petit rappel, le système jovien est le système regroupant la planète géante gazeuse Jupiter et l'ensemble des objets se trouvant dans sa sphère d'influence. Pour en revenir à la sonde JUICE, elle entrera en orbite autour de Jupiter en octobre 2029. Elle travaillera pendant au moins 3 ans pour observer Jupiter et mener des études approfondies de 3 de ses plus grandes lunes glacées, Ganymède, Europe et Callisto, qui abritent potentiellement des océans internes. JUICE sera d'une importance capitale pour déterminer le potentiel d'habitabilité des planètes présentant potentiellement des océans au-delà de la nôtre. C'est maintenant la fin de cette chronique. Je vous souhaite à tous une bonne journée sur Radio Pont.